Merci beaucoup. La parole est à la salle.
Merci. Qu'en est-il des sondages qui ont été effectués au niveau de l'Antarctique en tant que paléoclimatologie par rapport à ce que l'on voit là, parce que c'est quand même des temps très courts géologiquement. Effectivement, il y a un réchauffement, ça il ne faut pas le nier. Mais est-ce que ce n'est pas non plus dû à ce qu'on est dans une période interglaciaire? Et qu'a-t-on trouvé dans les sondages en Antarctique, qui sont sur des durées quand même plus longues?
Oui, alors là, tout ce que j'ai présenté là, c'est des observations, c'est la période dite instrumentale, donc c'est la période depuis laquelle on fait des mesures météorologiques, c'est court. C'est 100 ans, 150 ans. Alors, ce que nous apprennent les forages dans les glaciers, en fait, c'est essentiellement ce que peut nous apprendre la constitution de l'atmosphère qui se retrouve en prisonnier dans des petites bulles d'air dans la glace. La première chose que ça nous apprend, c'est déjà la remise en perspective des concentrations actuelles de gaz à effet de serre dans l'atmosphère par rapport à l'histoire, et c'est que les concentrations actuelles n'ont jamais été observées depuis plus d'un million d'années. Et loin s'en faut. Aujourd'hui, on n'a qu'à se passer les 400 ppm en CO2, et je pense que le maximum observé au cours du million d'années précédentes était inférieur à 300. Alors ensuite, on n'a pas d'observation directe de la température, bien sûr. Ce qu'on sait, pour différentes raisons, et puis via les quantités par rapport auxquelles on essaie de reproduire la température moyenne de la planète, c'est qu'évidemment, la température de la planète a toujours beaucoup varié, et qu'il y a des mécanismes naturels très bien identifiés qui expliquent ces variations, notamment le cycle des périodes glaciaires, expliqué par les variations de l'orbite de la Terre. Et on sait, alors en grande partie par notre compréhension de ce mécanisme-là, que ces variations n'expliquent pas le réchauffement actuel, qu'elles sont beaucoup plus lentes que le réchauffement actuel. En fait, pour donner l'ordre de l'idée, hein, sur les glaciations, c'est quelque chose d'important, les glaciations, c'est 4 à 5 degrés de moins sur la température moyenne de la planète. Au passage, 4 à 5 degrés de moins en température moyenne planétaire, ça signifie que toute l'Europe du Nord est couverte de glace comme l'est aujourd'hui le Groenland. Donc ça veut dire vraiment que c'est un changement climatique important. C'est pour replacer qu'est-ce que c'est 4 à 5 degrés. Dans un cycle glaciaire-interglaciaire, en fait, la partie la plus rapide de la transition, c'est le réchauffement. On passe de l'état froid à l'état chaud. Et ça s'est passé en gros entre il y a 20 000 ans et entre il y a 10 000 ans. Et donc c'est plus 4 degrés en 10 000 ans. Et ce qui se prépare pour le siècle à venir, c'est plus 4 degrés en 100 ans. Donc le rythme n'est pas du tout le même, quoi. Alors, on est en haut de la sinusoïde pour le cycle glaciaire-interglaciaire, indépendamment des activités humaines. Et voilà, les activités humaines vont arriver là-dessus et très largement modifier ce cycle, puisque juste sur le siècle à venir, s'il n'y a pas de volonté de réduire les émissions de gaz à effet de serre, on attend un réchauffement aussi fort qu'un cycle glaciaire-interglaciaire entier, en moyenne planétaire. Alors après, le reste de la variabilité du climat, en particulier depuis 10 000 ans, donc qu'on est dans la phase chaude, on a un climat finalement qui est relativement stable. Les facteurs qui expliquent encore, naturels, hein, qui expliquent encore des variations, sont essentiellement les petites variations d'activité solaire, quantité d'énergie reçue, et puis les grandes éruptions volcaniques. Et effectivement, oui, ça a contribué à moduler le climat depuis les derniers, enfin, de tout temps, mais ça c'est... On arrive à le reconstruire dans les enregistrements qu'on a des derniers 1000 ans et puis un peu au-delà. J'ai pas le matériel ici, mais c'est des choses qui restent petites par rapport à la perturbation que l'homme est en train d'imposer au système actuellement. Disons, si on les regarde dans le temps, alors quand il y a un volcan, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que le mécanisme, c'est l'émission d'aérosol, donc c'est des petites poussières qui réfléchissent le rayonnement solaire. C'est très efficace, ça refroidit le climat, mais ça dure un an ou deux. Et donc, en fait, si on regarde avec un peu de recul, c'est des perturbations assez faibles.
Bonjour. Est-ce que vous avez essayé d'établir une relation un peu comme celle-là entre le réchauffement et la sublimation pour travailler sur les cours d'eau? On voit aujourd'hui des quantités de neige se sublimer et les cours d'eau qui ne bougent pas en matière de débit. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est accéléré avec le réchauffement?
Alors, je ne suis pas un spécialiste de nivologie. Il y a des études sur effectivement à quel point il faut prendre en compte la sublimation. Donc, sublimation, c'est la transformation directe de l'eau sous forme solide, en général de la neige. Passage sous forme de vapeur d'eau. Donc c'est, en fait, on passe directement du solide au gaz et on ne passe pas par une phase liquide, donc il n'y a pas de ruissellement, il n'y a pas de passage dans la rivière. Donc c'est le sens de la question. Donc je ne suis pas spécialiste de ça. Tout ce que j'ai en tête comme travaux, c'est qu'à échelle de bilan de neige et d'eau sur une saison, par exemple, la sublimation, c'est quand même un terme vraiment petit, quoi. Et ça le reste. Et je n'ai pas du tout connaissance d'un effet du changement climatique là-dessus. Du reste, physiquement, je ne vois pas de raison majeure qu'il y ait ce genre d'effet.
Une dernière question, s'il vous plaît.
Non, c'était juste pour compléter la réponse qui avait été faite par rapport au réchauffement actuel et par rapport à la longue durée. On a des reconstitutions de température dans les Pyrénées sur les 15 derniers millénaires qui ont été faites à partir de fonctions de transfert établies à partir de l'étude des chironomes, des microfossiles, enfin des insectes qui sont conservés dans les sédiments lacustres. Et on voit effectivement cette augmentation très très forte au début du post-glaciaire, enfin dès le tardiglaciaire, des températures. Et puis après, on voit après l'optimum thermique climatique, c'est-à-dire il y a à peu près 8000 ans au moment où on est vraiment à l'asymptote des températures, on voit les températures diminuer tranquillement parce qu'on repart en fait vers un cycle glaciaire. C'est-à-dire que si on projette à 5000, 6000 ans vers le futur, on rentre à nouveau, astronomiquement parlant, dans une ère glaciaire. Et il y a 5000 ans, on voit une diminution des températures s'opérer, et c'est ce qui s'appelle le néoglaciaire, qui est enregistré dans les Alpes, mais qui est aussi enregistré dans les Pyrénées, avec un refroidissement progressif des températures. Et la rupture, elle s'opère à partir de la fin du 19e, et surtout courant 20e, on voit à nouveau une hausse des températures extrêmement rapide. Et bon, c'est, si vous voulez, la paléoclimato à l'échelle des Pyrénées rejoint parfaitement ce qui a été dit à l'instant. C'est-à-dire que ce réchauffement est extrêmement brutal, extrêmement rapide, et sort de toutes les normes qu'on pouvait avoir jusqu'à présent, quoi.
Merci pour ce complément. Je suis désolée, on va être obligé de s'en tenir là, mais vous aurez un petit peu de temps à midi pour poser vos questions, et donc je vous incite, pour ceux qui ont des questions, à vous installer à côté d'Aurélien à table, qui sera un plaisir d'y répondre.